Era per lui.
Et la jalousie, c'est. C'est-à-dire, voilà, et il y a entre la racine cano, acquérir, et la racine cano, et la racine cano avec la jalousie, il y a un sens commun. Être exclusif. Exclusif. El cana. Ça veut dire que la relation de propriété est exclusive. Elle implique la prina. Et el cana. Alors il est Elkana. C'est à moi. Alors je suis jaloux, ne va pas chez quelqu'un d'autre. Ça. Donc c'est relié avec Ken. Bon, le principe est très simple finalement. Et ce que nous voulons exclure déjà dans le premier enseignement, Kina, Bema, Sebreshi, cette forme de dualisme-là, d'où ça viendrait? Ça viendrait de ce que la motivation du Créateur, c'est une motivation de passion, ça viendrait de Rachamim. C'est Rachamim qui est sélectif. C'est clair? Pas encore. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui introduit la dualité dans la relation entre Dieu et le monde? C'est précisément que sa relation soit au niveau de Rachamim. Rachamim, c'est une émotion, c'est une passion, c'est la passion qui est sélective. Alors qu'il y a un niveau supérieur, l'ordre de la volonté est universel, concerne toute la créature. Ce n'est que si je motive l'exéroth par Rachamim, alors que j'introduis tout de suite le principe de distinction entre cela et cela. Pour cela j'ai Rachamim, pour cela j'ai pas Rachamim. Et il y a un verset très clair. Vechanoti et asher achon, verichamti et asher arachem, caprice. Oui. Et alors là aussi, c'est vrai, mais on ne parle pas comme ça. C'est vrai, mais on ne parle pas comme ça. Parce que ça brise l'unité de l'ordre universel. Parce que vraiment, il y a là, d'une manière comme de l'autre, une motivation qui met atteinte au principe de l'unité et qui réintroduit le dualisme. Je pense que c'est clair. Mais vous voyez pourquoi le Or HaChaim dit que c'est un mystère. Enfin, mystère, c'est pas le mot. Il n'y a pas le mot de mystère en hébreu, mais... C'est vraiment le mystère fondamental. De tous mes maîtres, j'ai entendu la même chose, quel que soit l'archita, la même chose. En fait, quand on arrive au mystère fondamental, c'est Israël. C'est Asher Tziva, Asher Lemor Daver Ben Israël, c'est ça le chok.
Depuis tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de mal à suivre aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que ou bien si c'est parce que ça va tellement vite que le lien. Mais je crois qu'on parle de l'élection depuis le début. Qu'est-ce que c'est qui s'agit?
Bien sûr. Enfin, je n'ai pas dit le terme, mais c'est évident. C'est-à-dire que ce qui nous est interdit ici, c'est dans la prière de se formuler de manière telle que on va poser ce problème d'une préférence de Dieu pour une catégorie de créatures. Et d'où viendrait qu'il y ait préférence, c'est que la motivation de sa volonté serait de l'ordre de la passion et non pas de l'ordre de l'universel, de la xéra. Et je crois que là est le point central. Quelles que soient les explications que nous pourrons comprendre pourquoi Dieu a choisi Israël, nous ne les comprenons finalement qu'a posteriori. C'est beaucoup plus une explication a posteriori, une justification, que là il y a un saut, là il y a un mystère. Les deux choses sont vraies. C'est-à-dire, voilà la difficulté, les deux choses sont vraies. Dieu est un absolument, sur le bien comme sur le mal. Toutes les formules, enfin, tous les problèmes du dualisme. Et cependant, il est vrai aussi que Asher Bachabanou Mikola Amim, et que Dafka, c'est Israël qui est Tzipor Noded Algag, c'est le Kalnesher Yarir Kino, c'est Israël qui est le Ken de Akadosh Baruch. Tout ça est vrai, et pourtant il ne faut pas le dire. Et parce que, comme dit le Pshat de la Gemara, Mipene Shemetil Kina, vraiment c'est plus. Regardez que c'est le même, les Midrashim Kassite Rashi, parce que le Satan et Moumouta à Olam vont contester. Ils vont dire, oh là, de quoi vous sortez? Qu'est-ce que c'est? Dieu, c'est le Dieu de tous. Okay? pourquoi on vous a donné à vous ces privilèges, que le tamé peut devenir taro et que...
Je ne pourrais pas répondre, par exemple, que Dieu a choisi Israël parce qu'ils ont dit, vous savez, Nasev Nishmar, ils n'ont pas demandé les tables.
Oui, mais il n'y a qu'Israël qui a dit Nasev Nishmar. Le mystère oui. rebondit. Et pourquoi Israël est celui qui a dit Nasev Nishmar? C'est que Dieu l'a créé comme ça.
Qui a répondu, il n'a pas les tables.
Comment? Attendez, non, qu'on finisse avec. Okay. Vous comprenez? C'est pas n'importe qui a dit Nasev Nishmar.
Il y a une préparation.
Hein?
Il y a une préparation.
Oui. Mais cette préparation a été offerte à l'humanité entière.
Évidemment,
elle
n'a pas eu. Non, mais pourquoi?
A
posteriori.
Ah oui, tout ça,
posteriori.
On comprend comment ça s'est passé. Je veux dire en hébreu. Anachnou mevenim er ze ma metafked. On comprend comment ça fonctionne. Mais pourquoi ça concerne Israël, on ne comprend pas. Je veux dire que finalement, on finit par comprendre. Mais ça reste un mystère. En tout cas, vous voyez, comme on a vu un peu hier dans un autre registre à propos d'Agador, la Gibor, Vanora, on ne peut pas comprendre avec le langage humain. Il faut se référer au sens des mots que les mots ont dans la Lashon HaKodesh. Okay.
Est-ce qu'on peut comparer à une famille, puisqu'on dit qu'Israël est le Bechor,
oui.
dans une famille où il y a l'aîné, et les parents font tout leur mieux pour éduquer l'aîné, pour lui donner toutes les directives. Et après, les autres frères et sœurs sont évidemment jaloux parce que c'est l'aîné qui est là, qui donne l'éducation.
C'est le même problème. D'ailleurs, les goïms oublient que quand on dit d'Israël qu'il est le frère aîné, ça veut dire que les autres aussi sont des frères, que les autres aussi sont des fils. Okay? Ça, ils oublient. Mais le mystère, c'est cela. Pourquoi c'est celui-là qui est l'aîné et pas quelqu'un d'autre? Le problème, c'est pas dans la forme de la fonction du Yotze Min HaKlal qui est le Bechor. D'après, pourquoi c'est lui?
Pourquoi est-il qualifié pour être l'aîné?
Comment?
Il faut être qualifié. En général, c'est le cadet qui devient l'aîné dans l'histoire.
D'accord. D'accord. Sauf. Quelle que soit la complexité.
Non, je veux dire, donc, ça évacue la.
Bon,
le rachamim.
Tout ça, c'est à posteriori. Mais malgré tout.
De départ.
Mais malgré tout, la question reste. Peut-être dans un autre séminaire, nous verrons des textes du Rav Kook d'après sur ce problème. Abraham Ohavi. Abraham Ohavi. Je vais expliquer. Nous savons bien que. On peut comprendre a posteriori que ce n'est pas arbitraire. Ce n'est pas arbitraire, mais ça reste gratuit. Il y a des raisons, mais le mystère reste. Je vais dire ceci. Peut-être que j'en parlerai à propos de Purim plus longuement à l'Onek Shabbat, de ce Shabbat. C'est ceci. Nous disons, peut-être j'en ai parlé peut-être une fois avec vous, mais c'est un sujet qui m'a été souvent posé à Mayanot. Nous disons qu'il y a une alliance entre Dieu et Abraham. Mais nous avons tendance à penser que c'est Abraham qui a pris l'initiative de l'alliance. C'est pas vrai. C'est Dieu qui a pris l'initiative de l'alliance. Abraham Ohavi. Voilà, Dieu un jour fait une déclaration. C'est Abraham que j'aime. Bon, nous savons très bien qu'Abraham n'est pas n'importe qui. Et que Dieu ne dit à Abraham Ohavi, et Dieu ne dit à Abraham Ohavi qu'à Abraham, c'est celui qui est prêt à ce que Dieu lui dise cela, à qui Dieu le dit. Mais c'est Dieu qui le dit. C'est pas, ça commence pas par l'homme. Comment commence l'histoire d'Abraham? L'Echlecha. Bon, nous savons très bien que la théologie chrétienne ici est fausse, que c'est par décision arbitraire, grâce arbitraire, Ken, que Dieu a choisi Abraham. Imaginez que Dieu un jour a dit, bon, il m'en faut un, je prends celui-là, caprice. Ken. C'est ça la théorie de l'élection chez les chrétiens. Ken. Et la tradition juive refuse cela. Le récit de la Torah ne commence pas avec Abraham, il commence à Adam Rishon, pour qu'on nous explique d'où sort Abraham. C'est pas n'importe qui. Hein? Mais seulement le sens de l'alliance n'est pas que c'est l'homme qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi cet homme. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi celui qui était prêt à être choisi. Alors, pourquoi nous sommes rassurés que c'est Dieu qui choisit? Là, nous savons qu'il n'y a pas de caprice. Parce que si c'est Abraham qui choisit Dieu, un jour il choisit Dieu, le lendemain il ne choisit pas Dieu. Tandis que si c'est Dieu qui a choisi Abraham, garantie, irréversible, vérité, olam. On est tranquille. Je dis, c'est ça le grand niveau.
Il a choisi de chercher.
Abraham cherchait. D'accord. Mais c'est pas n'importe qui. Seulement, donc c'est pas arbitraire. Mais oui, le mystère, c'est qu'Abraham était Abraham. Et là, c'est-à-dire, nous comprenons a posteriori. Mais a priori, ça reste. Donc les deux choses sont vraies. Ici nous avons une Gemara très, très juive, très pleine d'humour. Et imaginez que ce qui est interdit sous peine sous peine de définition d'hérésie, c'est la vérité elle-même. Attention, ne dis pas ça trop fort, c'est hérétique. Mais c'est vrai. Vous avez compris.
Le mot mystère en français est dangereux parce qu'il y a une telle connotation.
J'ai lu, j'ai lu.
Pour éviter de l'entendre.
T'as raison, mais...
Malgré soi, on dit c'est mystère.
C'est-à-dire, c'est sot. Et finalement, c'est un sot que, en fin de compte, nous pouvons comprendre dans la perspective du Narasé Benishma. À force de vivre cela, alors on comprend.
Okay. Non,
mais, oui, alors on comprend. Mais on ne pourra jamais expliquer ça, ni au Satan, ni au Motarolam. On ne parle pas de ça. Voilà. Mais vous voyez dans quel piège on est tombé. C'est de croire que ça veut dire qu'il n'y a pas de Taram. Et vous voyez comment les grands comme Maïmonide et Nachmanide se sont attrapés là-dessus à cause de la gravité du problème. Ne dis pas qu'il n'y a pas de Taram. Il y a un Taram. Mais le Taram, c'est Sod. Tu veux le comprendre? Alors regardez l'humour de Nachmanide. Eh bien, c'est que la Bina est appelée Em, qui a 7 jours dans la Choupa. Quel rapport? De quoi il s'agit? Sod. On finira par comprendre. Mais les autres comprendront.
Mais non.
Voilà, alors je ferme ça. Okay.
Alors, pour en revenir à notre séminaire précédent, c'est-à-dire que. Si on prend donc la première phrase sur laquelle nous écrivons, la louange, c'est pas la louange, on ne peut pas louer, c'est même qu'on ne peut pas prier n'importe comment, puisque l'équivoque de la louange ici, c'est que d'une part, c'est une reconnaissance, mais c'est une reconnaissance blasphématoire, donc il faut
et
la taire.
Avec risque de blasphème, donc il faut la taire.
Donc on voit bien ici le lien, parce qu'on doit certainement, il va y avoir un lien entre la louange et la prière, il y a un rapport entre les deux.
Ça, on a étudié, déjà, bien sûr. Ça veut dire, la louange est le véhicule de la prière. La tehillah est le véhicule de la tefillah. Ça, nous avons, si vous voulez, on peut étudier maintenant, nous avons une chose dans la Gemara très, très claire. Pourquoi, Anshek Mesed Agudala ont fixé 18 bénédictions qui sont 19? Parce que David Amelech a dit 18 psaumes qui sont 19 avant de dire le verset « Iyu le ratson imrefi ve yon libi le panecha Hashem srevuat ». C'est-à-dire, donc nous gardons la structure de la Tehila, qui est le véhicule de la Tefila. Et c'est-à-dire que dans le moment même, dans le projet de demander quelque chose à qui je demande, je dis à qui je demande. C'est ça la Tehila. Je vais dire ça un peu de façon très, très schématique. C'est ceci. Prenons la première bracha du Shmoneh Esrei. Ata chonen l'adam darat, umlamed l'enosh bina, vechonenu meitecha de'a bina ve'askel. Donc, qu'est-ce que je dis par là? Baruch ata Hashem chonen l'adam. Je dis, je sais qui tu es, je connais un secret, je sais que Atachon est la dame d'Arat. Alors donne-moi. Okay. Vous voyez le fonctionnement. Atachon est la dame d'Arat, c'est la Tehila. Je te définis parce que je sais, je connais ce secret-là. Ne me dis pas que tu donnes pas, parce que je sais que tu donnes ça, c'est ta définition. Alors donne-moi. Et donne-moi si je mérite, c'est tout le problème de la Tefila elle-même. Il te fallait loup, jugement, vous rappelez de ça. Okay. Et je pense que c'est clair. Et alors, voilà pourquoi, on n'a pas le droit d'employer n'importe quoi, quelle forme de Tehila. Vous vous rappelez la suite de la Gemara. Et quelqu'un qui commence à dire, « Ah, la Gador, la Gibor, la Nora, la Aizouz, la Gibor, est-ce que tu sais de quoi tu parles ?» Et d'abord, est-ce que tu as le droit de t'arrêter? Vous vous rappelez?
Oui, parce que ça suppose, la louange comme la prière suppose tout un travail, c'est-à-dire...
Un travail de
le travail, c'est la question du taam, c'est la question du travail aussi, c'est-à-dire la question de trouver de quel principe ça procède, et non pas, parce que à travers ça, c'est toute la contemplation mystique, toute l'enfant esthétique, tout ça est complètement
très bien.
Pas sérieux.
Très bien, c'est pas sérieux, très bien, la bouillie sucrée. Top, très très bien. Bon, alors on va un peu avancer, oui.
De revenir. D'un côté, d'Israël, béni Bokhorihu. Et de l'autre côté, nous voyons quand même que beaucoup de l'Israël, justement, n'étaient pas des Bokhorihu.
Attendez, beaucoup de qui?
Des Avot et des autres n'étaient pas Bokhorihu.
On dit Bokhorot, mais en fait, ça va.
Bokhorot, oui. On était des tétables de Bokhor. Donc il y a une.
Mais qui par exemple? Il est le Bechor de sa mère. Yaakov est le vrai Bechor.
Yosef.
Il est le Bechor de sa mère. Et Abraham il prend
le
corps.
Et le corps, Judas ne prenait pas.
Bon,
vous prenez Moshe, Moshe n'était pas le corps.
Bon, mais ça c'est son grand mérite. Il a fait, c'est son grand sroud, il a fait le tikkun de Caïn et de Abel. Je vais vous parler un peu de ça, en vous citant le Shla. Abraham était Bechor ou non? Regardez le texte dans la généalogie de Terah.
Bon, il n'y a pas de cri. Les éléments sont complexes.
Non, il est bien.
Shivataim, Yukam, Caïn. Vous vous rappelez, après le meurtre de Abel par Caïn, Caïn a un sursis de 7 générations.
Répétez verset qui?
Qui? Shivarataim, Yukam, Caïn.
Qui? Shivarataim, Yukam, Caïn.
Alors c'est écrit sans le vav. Vous verrez dans le texte. Alors le Shla, en se basant sur un Zohar.
Shivarataim écrit sans vav?
Écrit ceci. Comment?
Et quel mot qu'il écrit sans vav?
Yukam.
Il dit ceci. Finalement, toute cette querelle entre Caïn et Abel va se retrouver dans l'opposition de civilisation entre l'Égypte et Israël. Et simplement, je vous donne une dimension du problème. C'est que la Torah dit clairement que l'Égypte avait les bergers en horreur. Okay? Et la relation de possession qu'il y a entre le pharaon et la terre et le peuple, il est le possesseur, il est le Caïn. Okay? Alors que en Israël, le Kohen, Dafka, ne doit pas posséder, il est le Roé. Okay? Oui, je vous dis là, il est très, très, très général, très, très schématique, c'est plein de précisions, mais pour aller dans notre point. Quand le Zohar explique que le tikkun du chet de Caïn sera fait par Moshe. Comment? C'est-à-dire qu'avec Moshe, c'est Abel qui triomphe de Caïn. Alors il va le montrer à différents niveaux, puis après vous me rappellerez pourquoi j'ai cité cela, à propos de...
Al-Bechor.
Alors voilà, je vous rappelle simplement un plan des 5 noms de la Neshama. Ok? Nesbesh. Gouar. Neshama. Haya. Et Yehida. Alors la Neshama de Moshe a eu à se mesurer avec les 5 niveaux de la Neshama de Caïn. Et vous allez voir ce qui se passe. Ici, au niveau du Nefesh, il a triomphé du Mitzri. Al Nefesh Achotet Hitamut. Moshe a annulé le Nefesh de Caïn en annulant le Nefesh du Mitzri. Le Mitzri, c'est au niveau de Nefesh. Ensuite, au niveau du Ruach, il a été aux prises avec la Machloket, le Korach. Au niveau de la Neshama, il a été en relation avec Yitro et ça s'est arrangé. Et là apparaît déjà Yukam. Okay? Le niveau supérieur, c'est au niveau de Chaya, Aharon, et au niveau de Yechida, Yosef. Okay. Bon. Alors, tout ça, c'est plein de citrés Torah, mais vous comprenez un peu la relation. Voilà, ici, à ce niveau-là, au niveau de Chaya de la Neshama, le tikkun de la querelle entre l'aîné et le cadet, c'est le tikkun a été fait avec Moshe Aaron. Est-ce que c'est clair? Mais là, nous voyons que Aaron reconnaît la Bechora de Moshe. Là, Caïn a reconnu, à ce niveau-là, Caïn reconnaît la Bechorale. Mais... une minute. Vous voyez, l'ascension des niveaux où cette marloquette, finalement, se résout au niveau le plus haut. Et le principe de l'amour des frères, c'est Yosef. Vous verrez, là, c'est très plein de structures très précises. La Neshama de Yosef, c'est hors Makif, et tout le reste, c'est hors Pnimi, mais c'est au niveau de Moshe Va'aron. Oui, Moshe va à Rome, Bekohana. Donc le point est le suivant, c'est que la Torah ne peut être donnée
que précisément à l'identité qui a résolu le problème Caïn Abel. Okay? Regardez comment ici, Rabbi Akiva est très grand. Je pense que c'est clair. Et je vous donne un remède qui est dans le Kliyakar à propos du problème suivant. C'est pas par hasard que le Matan Torah, c'est le Hag HaShavuot qui est Hag HaBikurim. Okay? Parce que la grande compétition entre Caïn et Abel commence par la compétition des offrandes. Et c'est Abel qui fait l'offrande de Bikurim. Parce qu'il donne la première part à Dieu. Parce qu'il considère que l'autre passe avant lui. C'est clair? Donc il est le vrai Bécho. Alors que Caïn avait offert comme offrande de l'offrande de Haga à Asif, après la récolte. Vaïi miket yamim, vaïave Caïn mincha l'achève. Okay? Il se sert d'abord, et après, le reste, il donne comme offrande. Voilà la compétition. Donc c'est Dafka au Haga Bikurim qui est donné le Matan Torah. Okay? Alors le Kli Yakar fait un remèze que du point de vue des Mazalot, le Mazal de Sivan, c'était Omin. Les jumeaux. Vous voyez comment le remède. Bien. Alors c'est là que ça se résout. Donc, alors vous voyez tout le problème.
Quel est en deux phrases, le Yukam là, de Vav de Yitro, le rapport entre Yukam et Yitro, je ne sais pas très bien.
Ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, relation de la Neshama de Moshe qui récapitule la Neshama de Hevel. À tous les niveaux de la Neshama. Alors, au niveau le plus inférieur, au niveau du Nefesh, c'est le Mitzri qui apparaît. À un niveau plus supérieur, Ruach, c'est la Machloket avec Korach. À un niveau encore plus supérieur, Neshama, Bina. Alors, c'est la relation avec Yitro. Et c'est une relation qui finalement se résout. Et puis, j'ai pas répondu, mais je paraphrase. Okay? Et puis, au niveau encore plus supérieur, c'est la relation avec Aaron. Et puis, finalement, en fin de compte, c'est la relation avec Yosef. Et Moshe ne sortira pas d'Égypte avant de ramener avec lui les ossements de Jésus. Bon, enfin, on referme cette parenthèse, mais vous voyez que. Donc, alors, nous avançons maintenant dans la Gemara. Alors, prenez la fin de la page. Il vous manquera de lune, mais ça fait rien, je vous ai dit la voix. Et après, on commence notre nouvelle page. Maudit, maudit. Vous êtes donc à la quatrième ligne avant la fin de la page. Encore la page d'hier, hein? La page d'hier. Oui. Vous avez fait. Alors, maudit, maudit. Meshatekin auto. Alors ici, la Gemara pose une question que nous allons tout de suite comprendre. La Mishnah dit, celui qui dit modim, modim, ça veut dire celui qui dit une formule de reconnaissance qui en elle-même est vraie, qui n'implique pas d'hérésie. Nous reconnaissons ta souveraineté, les hodot, et puis modim, nous te sommes reconnaissants de ce que tu fais pour nous. Et on le fait taire. Pourquoi on le fait taire, hein? Amar Rabbi Zera, on va citer un enseignement analogue. Rabbi Zera enseigne Kola Omer, Shmar Shmar, Ke Omer, Modim Modim Dame. Tout celui qui dit Shmar Shmar, d'ailleurs Shmar Israël, ça ressemble aussi, celui qui le dit deux fois, ça ressemble aussi à Modim Modim. Donc on devrait le faire taire aussi. Et ici, le problème est simple, j'ai fait allusion tout au début du séminaire, le lundi matin déjà. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une distinction que je fais entre deux niveaux de la providence de Dieu. À l'un, je dis déjà modim, et à l'autre aussi, je dis modim. C'est-à-dire la répétition de la formule de reconnaissance est interdite parce qu'elle implique que je m'adresse à deux partsoufim différents, que je m'adresse à deux personnes différentes. Alors, Rabbi Zera dit, dans le même sens, tout celui qui dit shmar, shmar, ke omer, modim, modim, damé. Métivé, on y objecte. Une citation, Akore et Shemar vechofla, c'est-à-dire celui qui dit le Shemar, et le double, le redouble, le répète. Hareze Megouné, c'est une chose pas jolie. Megouné, c'est pas joli. Megouné, vous devez, c'est pas joli que c'est. Et toi, tu me dis qu'on le fait taire. Et surtout que la machine, on les fait pas taire. On dit c'est pas bien. Alors pourquoi toi, Rabbi Zera, tu as dit que celui qui répète le chemin, on le fait taire. Ça ressemble à Modi Modim, on le fait taire. C'est la même chose comme s'il a dit un principe de dualité, de dualisme. Okay? En réalité, on nous a enseigné que c'est mégouné, que c'est pas bien. Et toi, tu le dis, on le fait taire. Alors vous allez voir là-dessus. Ha de amar milta milta, vetanela. C'est-à-dire, il y a deux cas ici. Dans un cas, dans quel cas on a dit on le fait taire. C'est celui qui a dit milta, milta, mot, il a répété mot après mot. Shmar, shmar. Israël, Israël. Hashem, Hashem. Elokenu, Elokenu. Okay? Ça, on le fait taire. Veha de amar, psuka, psuka, vetanele. Dans le deuxième cas, il a dit Shma, Israël, Hashem, Kuna, Hashem, Echad. Shma, Israël, Hashem, Kuna, Hashem, Echad. C'est pourquoi vous avez dans certains rites, au moment où on sort la Torah, le Chazan dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et le Kahal répète Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça c'est mégouné, on n'aime pas ça.
Okay? Dans tous les rites, non
hein?
Dans tous les rites.
Non, dans le rite Mitnaget.
Mais
ça ne parle
pas de la même chose, alors si on répète deux fois un mot et si on répète
avec. Donc ça ne veut pas dire la même chose, bien sûr. Mais en fait c'est pas interdit. Hein? Parce que c'est pas le même qui répète. Mais malgré tout, il y a certaines communautés où on le fait pas parce que ça se relie à cette Gemara. À Kippour, oui. À Kippour, on se permet beaucoup de choses. Et on dit, bah, je sais pas comment on va leur envoyer d'avoir. Remarquez ce qu'il y a ici. Faites bien attention. Il y a certaines, dans certaines synagogues, on applique des mélodies sur des psaumes, donc sur des textes, ce qui fait que la mélodie oblige à répéter le nom de Dieu deux fois de suite. Ça, c'est complètement interdit. Celui qui dit Hachem, Hachem, c'est complètement interdit.
Il y a d'autres aspects aussi dans la fila, c'est dans la Kedusha de Moussa. Shema Yisrael, Hachem, Hachem, Echad. Et dans certains textes de prière, Echad, Fou, Elokeinu, Avinu, Malkeinu. Et dans les Sidurim, les Mitnagdim, il n'y a pas le mot Echad. Pour éviter qu'on dise Shema Yisrael, Hachem, Echad, Echad.
C'est exact. Et chez les Sfardim aussi, il n'y a pas. Il y a vous, l'Okenu, vous, Abinu.
Alors que les Ashkenazim, vieux, ont
un Echad. C'est ce que j'ai appelé les Tzagnim,
non. Non.
C'est vrai, non, tu as raison.
Le Habil.
Oui, un Atlassien, c'est pas un vrai. Hein. Bien. Et en fait, tout ceci se rattache à une autre Gemara qui se trouve dans le deuxième chapitre. Ce qui est interdit, c'est de dire « émet, émet ». Le grand principe commence là. C'est la raison pour laquelle, à la fin du Kriyat Shema, on dit
« Adoshim lokecham émet be'emuna uve'atzli ».
Oui, on dit, la fin du verset, c'est « Ani Hashem elokechem » et le commencement de la bracha qui suit, c'est « émet », soit « émet ve'yatzli », soit « émet ve'emuna ». Alors, on doit dire « Ani Hashem elokechem émet », mais ne pas répéter le mot de « émet » pour le commencement de la bracha, et on commence par Veyativ Ve'emun.
Et si on répète Adoshem Elokechem Emet?
Comment? Le Shaliar Tzibur, c'est autre chose. Enfin, si vous voulez, nous allons lire le texte en même. Voilà, je vais vous expliquer. Lorsque nous lisons, avec le Shaliar Tzibur, nous lisons à l'échelle individuelle le Shema, on termine en disant Ani Hashem Elokechem Emet, soi-même, okay? Et puis on attend que le Shaliar Tzibur dise Hashem Elokechem Emet, et on commence par Ve'yativ ou Ve'emuna. On ne répète pas soi-même le mot de Emet. Pourquoi on dit Ani Hashem Elokechem Emet? Parce qu'il ne faut faire aucune afsaka entre Hashem Elokechem et Emet. Aucune afsaka. Okay? Ben Hashem Elokechem Ve'emet lo yafsik. Et alors, pour ne pas faire l'afsaka, on a ajouté Emet. D'ailleurs, ça achève le nombre des mots. Okay? Et puisqu'on l'a déjà dit une fois, on ne le répète pas une deuxième. Alors, voilà quel est le principe de ce sens-là. Celui qui répète deux fois Emet, et ensuite tout découle. Celui qui répète deux fois Shema, celui qui répète deux fois Moudim, celui qui répète deux fois Hashem. Exactement. Introduit le doute. Vous comprenez? Si je dis c'est vrai, eh bien c'est vrai. Mais si je dis c'est vraiment vrai, c'est que c'est pas vrai. Emet, Emet, alors t'es pas sûr. Et je vais vous voir comment la Gemara va expliquer.
Oui, mais on dit quand même, Adoshem, Adoshem, mais Rahum, enfin, on l'a dit deux fois.
Ça, c'est dans la Torah.
Ça, c'est dans la Torah.
Et vous verrez qu'il y a un pasik, comment on dit ça dans le taram, entre deux. Vous avez raison. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a d'autres raisons. Ce sont les rites des kabbalistes qui ont institué ça. Ils savent ce qu'ils veulent faire, etc. Mais ici, nous sommes dans la halakha de la Gemara, dans le principe lui-même. Et on n'a pas encore étudié la Gemara qui est dans le Tam. D'abord, le principe shoresh de tout cet enseignement est dans à propos du Kriyat Shema, à propos du Mohémet. On ne répète pas deux fois le Mohémet. L'affirmation de la vérité n'implique pas de répétition. Pourquoi ? Ben, pour le sens fondamental, élémentaire qu'on vient d'établir. Voilà comment la Gemara l'explique. Mais on est arrivé là qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux citations. On le fait taire quand il dit Shema, Shema, Israël, Israël. Lorsqu'il dit Shema, Israël, Shema, Israël, Shema, Israël, ça c'est mégouné. Ça c'est pas joli. Ken? Bon. Psuka, Psuka, vet anile. La suite. Amarle, Rav Papa, le Abaye. Rav Papa, objecté Abaye. Vedilma, meikara, la kaven d'arte. Peut-être je peux expliquer ce qui est arrivé. Au début, il a dit le verset du Kriyat Shema, mais il n'avait pas vraiment encore Kavana. Ken? Ubesov Kaven Darte. Alors il a répété avec Kavana. Vous suivez? Amarle. Abaye a répondu à papa. Là vous n'avez pas la suite, mais je vais vous la lire. Havruta Klapeshmaya Miika. Voilà la réponse d'Abaye. Havruta Klapeshmaya Miika. Havruta, ça veut dire familiarité. Ken? Devant Dieu, ça n'existe pas. Ça veut dire que se conduire avec familiarité. Hein? Oui, ça c'est la lecture du pshat, un peu plus profond. Havruta, répéter, devant Dieu, c'est insolent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu entreprends de dire Shema Yisra Shema Grad et tu n'as pas encore Kavana. Hein? Et après tu te dis, bon, je l'ai dit une fois mais je n'ai pas eu Kavana, je répète. Ça veut dire, là je vous ai poussé les choses à la limite, ça veut dire celui qui prononce la formule sans Kavana, alors c'est pour ça qu'il va se donner le droit de répéter avec Kavana. Ça veut dire qu'il est un hérétique absolu. Ça veut dire qu'en réalité, il lit, il ne parle pas. Ça veut dire qu'il ne prend pas au sérieux qu'il est devant quelqu'un à qui il parle. Il dit. Hein? Et alors, vous comprenez, ça se passe entre lui et lui-même. Alors, il a dit une première fois sans Kavana. Alors, ça ne marche pas, ça ne déclenche pas l'extase. Hein? Alors, il dit une deuxième fois avec Kavana. Mais ça veut dire que. Havruta Klapeshmaya. Hein?
Oui. Par exemple,
quand on mange un fruit et qu'un moment après on dit,
tiens, est-ce que j'ai fait la
bracha ou
pas? Alors on n'a pas le droit de la
faire
une nouvelle fois, parce que si on a oublié qu'on l'a
fait,
et donc on l'a fait.
C'est-à-dire c'est assez proche. C'est ce qu'on appelle bracha levatala. Hein? C'est assez proche. C'est pas exactement le même principe, mais c'est assez proche. Et je crois que là, il y a un point important. Hein? Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux le fait que dans l'entreprise de la tefila, je suis devant quelqu'un. Et devant quelqu'un, je ne me reprends pas. Et devant qui je me reprends? Devant un haver. Mais havruta klapeshmaya. Alors regardez jusqu'où il va dans sa réponse. Il a kaven darte meikara. S'il n'avait pas réussi à mettre la kavana au début, meikara. Mahenan le bemarzafta de napaha ad de mechaven darte. On le lui fait entrer dans son crâne avec un marteau de forgeron jusqu'à ce qu'il ait la kavana. De quoi tu me parles? Il fait des exercices pour avoir la kavana. Il n'a pas la kavana du début. Avec un marteau de forgeron, on lui rentre la kavana. Voilà, vous voyez le.
C'était
plus simple.
Avec les kavanas de gens avec des marteaux de forgeron.
Et tout ça se rattache à la Mishnah du début du chapitre. Hein? En omdin le palel et la mitot kovel rosh. Ça veut dire qu'il faut d'abord se préparer au kovel rosh et après il n'y a plus de question que tu répètes parce que tu fais l'exercice de kavana. Et nous allons commencer tout de suite la Mishnah de la fin du chapitre. Amit palel vetara simamra lo. Non, j'ai rapproché. J'avais pas à lire. Je demandais 5 minutes parce que je vois que vous commencez vous-même à. Amit Palel Betara, Siman Ra'alo. Vous n'avez pas de chumashim.
Bon, si tu l'as, alors c'est le verset 6 du chapitre 12. Je vais en avoir une référence.
Du chapitre 12 de quel...
De Shemot,
pardon. Dans la Mishnah.
Alors, Hamid Palel Veta'a Siman Ra Lo. J'ai fait déjà un peu allusion tout au début de la semaine. Hamid Palel, celui qui prie, Veta'a, et il s'est trompé. Il s'est trompé, ça veut dire toujours, il a dit un mot à la place d'un autre. Veta'a. Veta'a, il s'est trompé. Je rappelle en tout cas le principe de la halakha. Là où, en fin de compte, pour la halakha, pour nous, des haronim, là où c'est le plus grave, c'est que quand on prie pour quelqu'un. Et le cas normal, pour quelqu'un, pour moi. Hein? Et tout de suite, le cas général, Veim Shaliar Tziburu Simanra le Sholchav. Et s'il est l'envoyé de l'assemblée, le Shaliar Tzibur, le Chazan, comme on dit aussi, c'est un Simanra le Sholchav. Moupenesh est. Et si le roche est la dame qui monte, parce que celui qui est envoyé par un homme est comme cet homme, il est par délégation. Okay? Ça, on verra après en détail. Mais du point de vue de la Khadra Haronim, si je prie pour quelqu'un, en particulier, le cas particulier, c'est de prier pour une guérison. Donc, si je prie pour quelqu'un, que je me trompe du nom de qui il s'agit, c'est Siman Ra. Alors, nous avons deux lectures à ce sujet. Premièrement, Siman Ra Lo, ça veut dire c'est le signe qu'il y a du Ra en lui. Relions au sujet général du chapitre qui est la Kavana. C'est-à-dire celui qui, on nous a appris qu'il faut Kavana, quelles sont les Kavanot, quelles sont les Kavanot interdites, etc. Et puis en fin de compte, celui qui prie se trompe, c'est le signe qu'il n'a pas de Kavana. Et dans le sens fondamental, qu'il ne fait pas attention à ce qu'il dit, il n'est pas présent à ce qu'il fait. Okay? Donc, Zesiman Rarlo. C'est un signe de Ra. Ça, c'est la première lecture simple et générale. Deuxième lecture plus profonde qu'on verra avec le Maasé de Rabbi Hanina ben Dosa. Quel Siman? C'est par ce Siman-là qu'on lui fait savoir que sa prière n'est pas acceptée. Vous voyez le lien. Okay? Est-ce que c'est clair jusque-là? Hamid Palel Veta'a Siman Rarlo. Vim Sheliar Tziburu Siman Rar le Shokhav. Alors là, vous prenez tout de suite cette référence dans Shemot, si vous voulez la noter. On apprend que le chaliar de quelqu'un est comme lui. Ça veut dire, dès que j'envoie un chaliar pour faire quelque chose, ce qui arrive au chaliar m'arrive à moi. Ça veut dire, il y a vraiment délégation absolue. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Par conséquent, il y a tout un problème dans la halakha. Est-ce qu'il peut y avoir un chaliar vid bar mitzvah? Est-ce qu'il peut y avoir un chaliar vid bar avera? Et il n'y a pas de chaliar vid bar avera, c'est-à-dire lorsque j'envoie quelqu'un faire une avera, le quelqu'un en question ne peut pas dire c'est pas moi, c'est celui qui m'a envoyé. Un chaliar vid bar avera. C'est tout un problème extrêmement important. Et je referme rapidement la parenthèse, mais on apprend ce principe que shiloucho chez la dame kemuto. Et de la première mitzvah qui est donnée à Israël concernant le sacrifice de Pessah. Voilà le verset. On doit préparer depuis le 10 du mois de Nissan l'agneau du sacrifice. Vaya lachem le mishmeret ad arba'a asar yom lachodesh hazeh. Et vous devrez le garder, mishmeret, cet agneau, jusqu'au 14e jour du mois. Et c'était les 14 jours de l'héroïsme des Hébreux en Égypte. Déjà le 10 du mois de Nissan. Ils ont préparé des agneaux pour le sacrifice qui aurait lieu le 14. Et les Égyptiens demandaient, qu'est-ce que vous faites avec ces agneaux? Et les Hébreux devaient répondre, eh bien, cet agneau, qui est la forme du Dieu que vous adorez, cet agneau-là, nous allons le sacrifier. Ça veut dire une espèce de héroïsme énorme des Hébreux en Égypte. Imaginez la domination, la souveraineté de la société égyptienne. Et les Hébreux en exil, dans leur ghetto, commencent à aller au chouk, à acheter des agneaux. Comment? L'agneau, c'est la vache sacrée des Égyptiens, et ils disent avec une tranquillité, courage, héroïsme. Hein? Oui, votre Dieu, c'est lui qui va être le sacrifice. Hein? Pendant 4 jours, il est arrivé cet énorme miracle, c'est relié au Shabbat Agadol. Hein? Puisque le 10 du mois de Nissan de l'année de la sortie d'Égypte, comme de l'année de la guerre des 6 jours d'ailleurs, c'était... Le 10, c'était Shabbat. Hassor la Chodesh, c'était le Shabbat Agadol.
Il y a un pont entre deux?
Oui, bien sûr. Et le.
une espèce de courage énorme. Le Shabbat Gadol est appelé Shabbat Gadol à cause de Nes Gadol, que les Égyptiens auraient pu détruire les Hébreux entre le 10 et le 14, et ils ont eu peur, ils n'ont pas touché. Chutzpah monumentale, qu'est-ce que c'est? Vous voyez à peu près, j'essaye d'expliquer l'atmosphère de ce propos. Donc, et ensuite, Veshachatu oto kol keal adat Israël ben Arvaï. Et toute l'assemblée de l'assemblée d'Israël, Shachatu, donc.
Sacrifiera.
L'Isboar, c'est ça.
Immolera.
Ben Arbaïm, à la fin de l'après-midi, s'appelle Ben Arbaïm. Donc. Alors, Rashi, si, la Gemara de Kiddushin, si je me souviens bien, Kehal Adat Israël. Non, c'est pas là. Veshachatoto, juste avant. Vechi Kulan Shachatin. Et est-ce que tout le monde a le droit de faire la Shrita, seuls ceux qui savent faire la Shrita, à la limite. Et le Kohen fait la Shrita. Okay? Et là, Mikan Sheshinucho Shel Adam Kemuto. De là, nous apprenons qu'il y a une délégation qui est donnée au Shochet, et que le Shochet, qui est le Shaliach, est Kemuto. C'est clair? De là, on apprend.
Fin de la 10e bande.